Oui, bonjour à toutes et à tous, et félicitations d'être venus malgré le froid et la neige de ces jours. En général, à la fin de l'année ou au début d'une nouvelle année, j'avais l'habitude de faire appel d'abord à la reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait tout au long d'une année et un message d'espérance en ce qui concerne la nouvelle année. Mais aujourd'hui, je vais faire ni l'un ni l'autre. Et je ne m'arrête pas sur le passé, la reconnaissance qui est extrêmement légitime, ni même l'espérance qui l'est encore plus, mais me concentrer sur le présent. Et pour cela, j'ai eu une petite inspiration tout récemment. Je n'ai jamais prêché sur ce sujet de toute ma carrière, mais de vous parler de Jésus quand il avait 12 ans et quand il est allé, peut-être pour la première fois d'ailleurs, dans le temple. Nous trouvons le récit, comme je l'ai écrit, dans Luc 2, dans les versets 41 à 52. Le passage met donc en lumière la conscience précoce de Jésus en ce qui concerne sa mission divine et son attachement au temple. Je vais ce matin suivre le texte comme une étude biblique. Enfin, nous sommes là pour ouvrir la Bible et pour nous concentrer sur le texte biblique, avant même d'aboutir à ce qui me semble une leçon importante à retenir, sinon un mot d'ordre pour cette nouvelle année. Je vais vous afficher chaque fois le texte que vous l'ayez sous les yeux. Donc, à fur et à mesure du message. Je vais lire en même temps dans la version du Semeur. Il me semble que ce que j'ai affiché doit être la version de la Colombe, qui est toujours encore ma traduction préférée. Mais comme ça, je lis en même temps dans les semeurs. Les parents de Jésus se rendent chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. D'après la loi, tous les hommes israélites devaient se rendre chaque année à Jérusalem pour les trois fêtes obligatoires qui étaient donc la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles, qui duraient chaque fois, en principe, une semaine. La loi ne prescrivait rien aux femmes. Non, je n'ai pas appuyé le bon bouton. La loi ne prescrirait rien aux femmes, mais la Bible note que les femmes accompagnaient en général leur mari quand ils éprouvaient le désir de cette communion. Et c'était visiblement le cas pour Marie, qui est allée avec Joseph donc à la fête de la Pâque, la principale des fêtes juives, pour se rendre à Jérusalem. Quant aux jeunes gens, les préceptes rabbiniques, la précepte rabbinique leur demandait d'aller lors des 2 ans qui précédaient leur 13e anniversaire dans le temple pour devenir des bar mitzvah, c'est-à-dire les fils de la loi, ce qui impliquait leur obéissance à l'ensemble des prescriptions juives ou, si vous voulez, leur majorité religieuse. La Nouvelle Bible Second fait une petite remarque qui dit que le prophète Samuel a commencé probablement sa carrière de prophète à l'âge de 12 ans. Il est dit « comme de coutume ». Comme de coutume, ils allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. il y a des traditions et il y a le traditionnalisme. Le traditionnalisme est défini par le dictionnaire par qui privilège l'élément traditionnel au détriment de l'élément rationnel, notamment dans les domaines religieux, politiques et moraux. Mais je voudrais juste préciser qu'une sainte habitude n'est pas du traditionnalisme, simplement parce que, et c'est là une leçon annexe de mon texte, si je décide une vie d'église régulière, c'est parce que je suis attaché à une, non pas à une tradition, mais parce que mon amour pour mon Seigneur m'inspire la nécessité d'une pratique suivie de ma vie spirituelle, autant personnelle que communautaire. Il y a ensuite les versets 43 à 45. Je lis de nouveau dans la Bible du Semeur, en même temps que vous avez le texte affiché. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin de retour. Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi retournent-ils à Jérusalem pour le chercher. Les jours dont il est question sont probablement les jours obligatoires de la fête. En fait, la fête durait obligatoirement 2 jours, mais très souvent, les gens restaient une semaine sur place, car même si la présence à la fête n'est obligatoire que les 2 premiers jours, d'après Exode 12 et Lévitique 23. Ensuite, ils retournent en large caravane, parfois jusqu'à 100 personnes, souvent pour la question de commodité, de sécurité aussi, parce que les routes n'étaient pas toujours très sûres. Il est difficile de comprendre pourquoi Joseph et Marie sont partis sans vérifier la présence de Jésus. Ils continuent leur chemin alors que Jésus n'y est pas. Est-ce que c'est le contexte des relations amicales avec les pèlerins ou l'habitude de ne pas s'inquiéter pour Jésus vu son obéissance sans faille depuis toujours? Mais en tout cas, cette situation leur cause un souci évident et ils doivent aller à la recherche de Jésus. 3 jours. 3 jours signifient probablement un jour de voyage et un autre jour pour revenir et un 3e jour pour le rechercher à Jérusalem. Il y a ensuite les versets 46 à 50. Trois jours plus tard, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. » « Pourquoi m'avez-vous cherché ?» leur répondit Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Je suis allé jusqu'au... Oui. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. L'expression qu'il était assis au milieu des docteurs ne veut pas dire qu'il était comme l'un d'eux. Mais les, doct- auteurs de la loi avaient l'habitude de former des cercles qui permettaient à des auditeurs de participer et de poser des questions. Et c'était la Bible a noté note que c'était un endroit particulièrement sécurisé pour un enfant de 12 ans. Il est dit ensuite qu'il était frappé de son intelligence. La Nouvelle Bible Seconde traduit « stupéfait ». C'est la même expression qui est utilisée pour les chrétiens à la Pentecôte qui étaient stupéfaits ou hors d'eux-mêmes. C'est le même mot qui est utilisé. Ensuite, au verset 48, il y a ce reproche. « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il y a un commentateur qui dit cela, ce fut là ce que lui dit Marie avec un reproche tout pénétré de douleur. Marie savait pourtant que Jésus était fils de Dieu, ça lui a été clairement annoncé avant la naissance même de Jésus. Pouvait-elle dès lors éprouver de l'angoisse à son sujet ? Le fameux commentateur Frédéric Godet dit à ce sujet « La critique résonne comme si le cœur de l'homme et de la mère fonctionnaient à la façon d'un syllogisme, c'est-à-dire d'un raisonnement logique. » Nous te cherchons, certains manuscrits disent, nous te cherchons dans le présent, un présent continu, et qu'ils étaient tourmentés, nous te cherchons avec angoisse, tourmentés. On pourrait dire, avec la dimension passée, ce n'était pas sur un coup de tête que d'un adolescent, mais le fruit d'un mûrissement qui voulait et pouvait se signifier à ce passage symbolique à l'âge adulte. Tous les parents font l'expérience au cours de l'éducation de leurs enfants qu'il y a un moment où l'enfant passe une étape dans sa vie, lors de l'adolescence en général, où il cesse d'être le petit dont qu'il faut entourer de ses soins, mais qu'il commence à développer sa propre personnalité. Ce n'est pas toujours facile, parce que c'est un changement évident dans les relations entre parents et enfants. Moi, je me souviens encore très bien que ma mère avait du mal à franchir cette étape. Elle voulait toujours me considérer comme son petit. Et j'ai eu une attitude peut-être un peu trop prononcée pour dire un jour de la repousser en quelque sorte quand elle voulait encore m'embrasser comme elle l'a toujours fait pour lui signifier que ce n'était plus tellement cela que j'appréciais, mais que j'ai franchi une étape simplement. Et je pense que pour les parents de Jésus, c'était peut-être particulièrement douloureux, vu cet enfant si obéissant qu'ils ont toujours connu en tant que tel. Mais avec sa dimension future, ce qu'il a déclaré là, Jésus, ce fondement de son être, Jésus va le mettre en fait en route après tout au long de son existence. Il y a une phrase un peu mystérieuse au verset 49, quand il est dit « Qu'est-ce que cela que vous me cherchiez ?» Ce serait la traduction très littérale. « Qu'est-ce que cela que vous me cherchiez ?» En fait, quelle en est l'importance en comparaison à ce que je devais faire ? Sans cette version un peu littérale, la question ne se comprend pas bien, parce qu'il est tout à fait légitime et normal que les parents vont chercher un enfant qu'ils ont perdu. Après, il leur dit « J'ai affaire chez mon père ». Là aussi, une phrase un peu particulière, on pourrait comprendre « Il faut que je sois chez mon père » ou encore comme « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père ». Les traducteurs ont eu parfois un peu de mal à trouver la bonne formule. Mais on se rappelle que Jésus disait aux vendeurs des pigeons dans le temple, « Ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » donc une sorte de conscience de la valeur même du temple. Et ce sentiment croissant au verset 50 de son rapport tout spécial avec Dieu l'élève à ce moment-là au-dessus des relations purement humaines. C'est ce qu'il va déclarer expressément dans la suite, comme par exemple dans Jean 2 au verset 4, quand Jésus répond à sa mère d'une façon presque brusque, quand elle veut intervenir en faveur des mariés qui manquent de vin, il dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Et ailleurs, Jésus dira « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et on se souvient bien de ce passage de Jean 4, quand il est dit que la foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et là encore, Jésus va répondre « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et en étendant la main sur l'auditoire pour dire « Ce sont ceux-là, ma mère et mes frères. » Donc pour se distinguer en quelque sorte de la relation purement humaine, alors que Jésus dans la suite va montrer son respect aussi vis-à-vis de sa mère. Mais c'est l'évangile de Jean qui met particulièrement en évidence l'union absolue du Père avec le Fils. Quand il dit par exemple, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ou encore, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il dira cela à Philippe. Il nomme donc Dieu son Père. Ensuite, dans les versets 51 et 52, je ne suis pas encore, donc je rappelle ce qu'il avait dit, que les gens sont frappés de son intelligence et le reproche de Jésus. Pourquoi me cherchiez-vous ? Et ensuite, les versets 51 et 52, dernier passage. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth, et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Donc, Jésus reprend sa place. Il reprend sa place d'obéissance à ses parents. Et il y a là une autre leçon, toujours leçon secondaire, dans le texte. Chaque enfant, même le plus doué, le plus intelligent, doit obéissance à ses parents, parce que le rôle des parents, c'est le développement de toute la personne de l'enfant et que cela leur est confié. D'ailleurs, le verbe exprime cette continuité. Et de leur côté, les parents doivent reconnaître la personnalité de leur enfant. La parole vivante transcrit Éphésiens 6 au verset 4. Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Donc, responsabilité mutuelle d'un enfant, l'obéissance, et des parents de la façon de l'éduquer. Il est dit, ce n'est pas la seule fois que Marie garde toutes ces choses dans son cœur, qui signifie littéralement conserver au travers des circonstances qui auraient pu le faire oublier. Et au verset 52, notons la quadruple croissance mentionnée. Il grandissait, c'est le développement physique, il se fortifiait, complété par « en grâce, étant rempli de sagesse », décrivent bien sûr les progrès intellectuels, spirituels et religieux. Donc Jésus passa par toutes les phases d'un développement normal. avec cette mention particulière que la grâce de Dieu était sur lui. Une grâce de Dieu qui peut aussi signifier faveur ou amour. On pourrait résumer que tout ce que Jésus faisait était agréable à Dieu. Mais là, je vais résumer. Je vais résumer les étapes que nous avons vues. Donc, Marie et Joseph ont perdu Jésus. Ensuite, ils n'en étaient pas conscients de suite et ils ont poursuivi leur route. La découverte de l'absence de Jésus a été pénible. La recherche était angoissante et a pris du temps. Jésus, enfin retrouvé, la réaction de Marie était un reproche. Jésus rectifie leur compréhension et finalement, la communion est retrouvée. Il ne faut pas trop vite blâmer Marie. Souvenons-nous avec quelle facilité nous pouvons parcourir notre chemin quotidien croyant que Jésus est avec nous alors que nous l'avons perdu. Nous avons perdu le contact avec lui à cause, quelquefois, de péchés non confessés ou encore par simplement le fait de nous identifier au monde. Et vous avez vu lors de ces publicités autour de Noël où Jésus a si peu de place, pour ne dire quelquefois aucune, combien il est facile de nous laisser influencer par la pensée du monde, même dans ces moments particuliers où nous pensons à la naissance de Jésus. Et pour rétablir le contact, il est évident que nous devons revenir là où la communion a été brisée, confesser cet abandon que nous avons plus ou moins consciemment connu ou subi. Il y a une illustration flagrante dans l'Ancien Testament, dans l'épisode d'Abraham, quand il est parti en Égypte et a menti au sujet de sa femme, et c'est donc où il a perdu toute communion avec son Dieu. Il ment, il triche et il se trouve humilié par un chef païen. Mais il revient à son point de départ entre Bethel et Haï et il retrouve les tentes et l'autel. Les tentes marquent de sa disponibilité et l'autel la marque de sa communion avec Dieu. Et j'arrive donc à l'application. L'interrogation est aussi simple que profonde et c'est là, pour moi, la leçon principale que je voudrais appliquer. On peut le formuler de cette façon-là. Est-il possible que nous ayons perdu notre communion avec Jésus sans nous en apercevoir? Ce n'est pas facile à distinguer. J'ai noté quelques critères que nous pouvons connaître d'une manière ou d'autre. La sécheresse spirituelle, la contamination par l'esprit du monde ou l'alignement. Il est tellement facile de faire comme les autres, de ne pas se distinguer, d'être coulé en quelque sorte dans la mentalité de notre époque. Et notre bien-être matériel est parfois un piège dans ce contexte. Quand nous lisons tous les matins une allusion de portes ouvertes sur les chrétiens persécutés, on se rend compte combien le besoin ou la persécution, la difficulté pousse les gens dans la communion avec le Seigneur. Mais nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons malgré tout une liberté et une facilité de vie qui nous place parmi le dixième de la possibilité de la population mondiale la plus favorisée sur un plan matériel. Et cela nous pousse quelquefois dans cette attitude de dire « je n'ai besoin de rien ». Mais quand on a besoin de rien, on ne demande rien et on n'obtient rien. Et notre dépendance du Seigneur peut, elle, quelque part, s'effacer devant cela. Et pourtant, il faut faire attention de ne pas laisser notre cœur s'endurcir. C'est l'auteur bien connu, le pasteur américain Max Lucado, a dit à un ami, « Tu n'as pas été créé pour être comme ça, hargneux et cinglant. » Et il poursuit, « Tu demandes, où est Dieu dans tout cela ?» Eh bien, il est plus près que tu n'as jamais rêvé. Donc, le remède est aussi simple que spirituel. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les parents de Jésus, ils revenaient au point de départ. Pour eux, c'était littéral, physique, au point de départ. Pour retrouver Jésus par le pardon et la réintégration dans sa volonté. Et ainsi, retrouver la voie de bénédiction qu'il avait prévue pour nous. Retrouver Jésus par le pardon et nous réintégrer dans sa volonté. Comme je l'ai dit, Jésus n'a pas eu beaucoup de place dans l'offre commerciale qui nous a entourés en ce temps de Noël. Et cette échéance de Nouvel An nous invite à recentrer Jésus dans notre vie. Le secret de la bénédiction de la nouvelle année en dépend pour chacun de nous. Réfléchissez à cette évidence. Est-ce que Jésus, nous y croyons, nous le confessons, nous venons à l'Église, nous venons une vie correcte, je pense, chacun de nous. Et pourtant, est-ce que Jésus est vraiment présent dans notre vie? Ou est-ce que pour une raison qui appartient à chacun, nous pensons qu'il est avec nous, comme les parents de Jésus l'ont fait, nous pensons qu'il est toujours avec nous, mais en fait, nous l'avons perdu sans nous en apercevoir. Cette interrogation, j'aimerais simplement vous la laisser et vous dire que dans la mesure que Jésus va nous être présent vraiment dans la vie de chacun, nous donner cette joie et cette assurance par son Saint-Esprit qu'il est vraiment celui qui est au centre de notre vie, qui veut nous diriger, nous encourager, nous inspirer dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, pour lui permettre d'être honoré dans notre vie. C'est le désir du Seigneur lui-même et mon désir aussi pour chacun de nous. Nous voulons prier. Je veux te demander pardon, Seigneur, aussi, parce que combien de fois j'ai vécu une vie de tous les jours, mais quelquefois, comme si tu n'y étais pas, comme si tu n'existais pas, ou que tu n'étais pas celui auquel je dois obéissance et communion et dépendance. Et je veux te prier pour chacun de nous ici présents, que tu puisses par ton esprit réveiller ce désir tout à nouveau de ce que la personne de notre Seigneur soit vraiment au centre de nos préoccupations, que tu puisses bénir le travail de nos mains, nos initiatives, notre vie de tous les jours, notre communion les uns avec les autres et surtout notre communion avec toi. Nous nous remettons entre tes mains. Te louons pour cette nouvelle année que tu nous donnes, où tu donnes la possibilité de t'expérimenter une nouvelle façon, peut-être même pour la première fois, avec une profondeur jamais connue. Et c'est là notre désir. Nous aimerions grandir dans ta présence, mieux te connaître pour pouvoir mieux t'aimer et mieux te servir. Au nom de Jésus. Amen.